Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant d'ouvrir notre débat sur les deux mémorandums qui s'affrontent au Sénégal sur les dernières violences sociopolitiques, voici Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Louis Mutombo, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes chef de division provinciale de la Régie des eaux, c'est la Société nationale des eaux de la RDC, dans le Nord Kivu, à Goma, dans l'est du pays. Depuis l'éruption du Nyiragongo à Goma, le 22 mai dernier, la distribution de l'eau potable est quasiment impossible. Comment cet incident a-t-il affecté le réseau de la Régie des eaux?
Madame, l'éruption de la lave a touché nos équipements situés au nord de la ville. C'est-à-dire, nous avons au nord de la ville, nous avons un réservoir de 5000 mètres cubes et deux réservoirs de 750 mètres cubes chacun. C'est là où la lave a endommagé nos équipements de la desserte en eau potable. Et cela a eu comme conséquence, toute la partie nord de la ville n'était plus approvisionnée en eau. Voilà ce qu'on a connu comme conséquence.
Conséquence aussi, la qualité de l'eau est mauvaise et les populations ont été invitées à ne pas boire l'eau du robinet. Et quels sont les risques auxquels elles s'exposeraient si elles consommaient cette eau?
Mais après cette éruption-là, comme nos équipements de desserte, c'est-à-dire nos conduites d'approvisionnement de cette partie-là étaient toutes endommagées, on n'y avait plus de l'eau au robinet. On n'y avait plus de robinet. Et alors, il restait seulement la partie ouest qui est approvisionnée par le reste de nos usines qui envoient de l'eau du côté de l'ouest. C'est là où il y avait de l'eau. Mais cette partie-là, il n'y avait plus d'eau. D'où la population recourait à n'importe quelle source d'eau pour s'approvisionner. Et nous, étant experts dans ce domaine-là, on avait conseillé que les gens ne prennent pas de n'importe quoi. Donc, c'est ça la carence. Vu la carence aussi, on ne pouvait pas interdire aussi cette population-là parce qu'elle ne savait plus à quel sein se vouer.
Mais la qualité de l'eau proposée par la Régie des eaux dans les parties où cela est encore possible n'est pas bonne, n'est pas potable.
Non, c'est de l'eau potable, c'est ce que nous donnons tout le temps. Le problème, c'est qu'il y a des camions qui prennent de l'eau directement au lac, sans traitement et qui partent distribuer ça. Ce sont ces camions-là auxquels nous faisions allusion. Mais la qualité de l'eau que la Régie des eaux a toujours produite est potable et de bonne qualité.
Certaines populations nous ont rapporté que la couleur de l'eau avait changé. Donc, vous garantissez que malgré cela, la qualité de l'eau est potable, elle est buvable?
Mais je ne sais pas à quelle population vous faites allusion. Parce que même à présentement, là, les usines de turquoise qui envoient de l'eau dans une partie de la ville basse est en service. L'usine de Fatih, au niveau des plages du peuple, qui envoie de l'eau vers l'ouest de la ville, est en service. L'usine de Keshero est en service. Et ils sont en train d'envoyer de l'eau de la bonne qualité.
Monsieur Mutombo, ce n'est pas la première éruption du mont Nyiragongo qui fait partie de la chaîne volcanique africaine de Virunga. C'était déjà le cas en janvier 2002. Comment avez-vous géré le problème d'accès à l'eau potable dans le passé, dans ces conditions?
Bon, dans le passé, nous n'avions pas été présents, mais est-il qu'il y avait de l'assistance, il y a l'assistance des opérateurs des ONG qui ont apporté les usines portables qu'on peut monter pour aider la population en urgence. C'était des choses comme ça. Et nous avions eu aussi une assistance rapide pour faire des travaux, réaliser des travaux en urgence afin de remettre tous les équipements en service. C'était de cette façon-là qu'on s'était sorti.
Combien de temps faudrait-il pour revenir à la situation normale d'avant cette crise?
Pour l'instant, on était déjà à pied d'œuvre pour remettre, mais vu que le tremblement de terre continue à perdurer, nous ne savons pas évaluer, parce que là, on vient d'évacuer toute la ville, tout le monde est évacué. Donc, nous ne savons pas vraiment donner un timing pour évaluer les dégâts et donner le timing d'intervention pour l'instant.
Est-ce que la Régie des eaux a les moyens de reconstruire les infrastructures qui ont été endommagées pour que la distribution revienne à la normale au plus vite?
La Régie des eaux, avec les moyens propres, ne saura pas le faire, madame. Il faudrait qu'on ait quand même, c'est une catastrophe naturelle, il faudrait qu'on ait quand même une assistance pour le faire.
Jean-Baptiste Kasekwa, qui est député de Goma, a dénoncé le manque d'alerte qui aurait pu, selon lui, aider à mieux gérer la crise et limiter les conséquences humaines et matérielles. Si la Régie des eaux avait été prévenue de l'éruption, est-ce que la situation aurait pu être différente aujourd'hui?
Je ne pense pas, madame. Quand on a alerte, c'est-à-dire que c'est pour épargner la population. Mais la larve, quand elle prend une direction, on ne sait pas changer cette direction-là. Donc, c'est juste prendre des précautions pour les personnes humaines. Mais les équipements, par exemple, les conduites, la région ne sera pas déplacée de conduites de diamètre 5 ans, non, dans l'immédiat, non. C'est juste la larve, c'est pour épargner les vies humaines.
Louis Mutombo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Chef de division provinciale de la Régie des eaux, la Société nationale des eaux de la RDC de Goma, dans le Nord Kivu, dans l'Est du pays.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue, nous parlons ce soir du Sénégal. Deux mémorandums différents, l'un du gouvernement et l'autre de l'opposition, réunis au sein du M2D, publié hier sur les dernières violences sociopolitiques qui ont marqué et endeuillé le pays. Quelle suite? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Amadouba, bonsoir. Monsieur Ba, vous m'entendez? Vous êtes juriste, membre du mouvement des cadres de PASTEF. C'est le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Vous êtes à Dakar et en ligne également de la capitale sénégalaise, Mouhamadou Gouda Bouop, enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop. Monsieur Bouop, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci également à vous, Kafor Kandji, membre de la coordination du mouvement. Il y en a marre également à Dakar. Monsieur Kandji, bienvenue.
Merci. Bonsoir.
Et je voudrais préciser, avant qu'on ne commence, que des responsables du gouvernement et du parti au pouvoir, dont Abdou Mbou ou encore Zator Mbaye, que nous avons contacté pour participer à cette émission, ont déclaré qu'ils n'étaient pas disponibles pour être avec nous. Nous allons donc faire cette émission sans eux. Et je vais commencer par vous, Monsieur Amadou Ba, puisque le PASTEF est membre de cette coalition, donc M2D. Je le souligne aussi de même que M. Kandji de la coordination Yanamar. Alors, le mémorandum de 55 pages parle de plusieurs points. Il n'est évidemment pas question, et d'ailleurs possible, de les évoquer tous dans cette émission. Mais quels sont les principaux points où il y a divergence majeure et forte entre le mémorandum présenté hier par le M2D et celui du gouvernement qui avait été rendu public en avril dernier?
Oui, donc il n'y a aucune convergence possible plutôt. C'est pas seulement une question de divergence, c'est que ces deux mémorandums ils sont totalement différents, tant dans leur contenu que leur portée. Il faut rappeler quand même qu'au lendemain de ces événements, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au Sénégal, qu'il y a eu des émeutes un peu partout dans le pays, que des jeunes ont été tués, à peu près une quinzaine de personnes, que le président de la République, les autorités, que ce soit judiciaires, n'aient pas demandé l'ouverture d'enquête au moment où ces jeunes étaient parfois à l'hôpital. Ils n'ont pas fait d'autopsie post-mortem, ils n'ont fait aucun prélèvement, ils n'ont pas pris les balles, etc., pour avoir au moins des éléments d'enquête, aucune instruction.
On fait l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse balistique.
L'analyse balistique, pour voir, parce que ces jeunes sont tués par balles, ce n'est pas juste des accidents, des trucs, ils sont morts par balles. Certains ont été à l'hôpital pendant au moins 2 semaines, 3 semaines avant de décéder. Que les autorités de ce pays n'aient pas trouvé bon de saisir un juge, d'ouvrir une enquête, mais plutôt d'annoncer la création d'une commission totalement illégale et anticonstitutionnelle, pour, alors que les jeunes ont été déjà enterrés, donc pour pouvoir exhumer éventuellement les morts, je pense que ça montre quand même le degré d'irresponsabilité de ce gouvernement.
Monsieur Bass, si je peux me permettre juste de vous interrompre pour répréciser ceci, ce que je vous propose de faire, c'est essayer de résumer point par point, parce que là, vous êtes dans, un peu dans les généralités. Quels sont les points précisément sur lesquels vos deux mémorandums n'ont pas été d'accord, s'il vous plaît?
Déjà, sur les faits, pour le gouvernement, il y a eu un appel à l'insurrection que le député et président de parti de PASTEF, M. Ousmane Sonko, a été accusé, que lui a sollicité la levée préalable de son immunité parlementaire pour respecter les procédures, ce qui a déclenché, ce qui est à l'origine de tout cela.
Le gouvernement. Donc, divergence 1 sur le point relatif à l'origine, ou l'élément déclencheur de la manifestation. Ensuite,
à la convocation du député sans la levée de son immunité parlementaire. C'était le premier problème. L'autre problème, c'est la qualification de son appel à la résistance. Ça a été qualifié par le gouvernement d'appel à l'insurrection pour renverser le gouvernement. Ils sont partis donc d'une histoire de viol privé entre deux personnes pour passer à un autre palier qui est le crime d'insurrection, parce que c'est un crime au Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté pour le parti et le président Ousmane Sonko de renverser le gouvernement, d'attenter à la vie des plus hautes autorités de ce pays, ce qui a valu d'ailleurs plusieurs cadres de ce parti d'être arrêtés. Troisième élément, donc c'est ce qu'on a dit, c'est que le gouvernement impute entièrement la responsabilité des morts à Ousmane Sonko et son appel, alors que ces jeunes ont été tués quand même par balles. Ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, c'est la volonté de ne pas saisir la justice et de confier le dossier à une commission qui sera créée par décret. Donc, on va créer une commission et on ne va pas saisir la justice. Il y a aussi le fait qu'en aucun moment, les blessés n'ont été pris en charge par l'État. Aucun
Merci.
Des blessés n'a été pris en charge par l'État.
Merci, monsieur. On va s'arrêter là, monsieur Ba. Il faut que les autres s'expriment. On va bientôt marquer une pause. Alors, en quelques mots, monsieur Kandji, vous partagez ces points relevés par monsieur Ba, ou il y en a peut-être qui vous paraissent importants et qui n'a pas relevé, en quelques mots? Monsieur Kandji?
Je vous entends. En fait, ce que je veux préciser, c'est que moi, je ne voudrais pas quand même aborder cette question-là sur la même angle que Monsieur Ba. Pour moi, il ne s'agit pas de confronter les deux mémorandums, dire que oui, sur certains points, on est d'accord, sur d'autres points, on n'est pas du tout d'accord avec le gouvernement. En fait, pour moi, ce n'est pas ça l'utilité, ce n'est pas l'objectif premier de ce mémorandum. Mais le gouvernement a sorti un mémorandum avec leur propre narratif, avec leurs propres mots, avec une charge quand même. Nous aussi, de notre côté, en tant qu'acteur, en tant que personne qui était vraiment, vraiment impliquée dans ces événements-là, nous avions estimé qu'il était important que nous aussi, qu'on fasse le récit, qu'on sorte notre propre narratif des faits. Pour moi, il faudrait juste le traiter sur cet angle-là, et pour moi, éviter quand même de dire oui, sur certains points, on est avec d'autres points, on n'est pas. Pour moi, ça peut quand même limiter la portée et aussi biaiser un peu l'objectif qui est cherché à travers ce mémorandum, qui est de montrer les faits, qui est quand même de préciser certains faits en tant qu'acteur, en tant que personne qui était au-devant de la scène.
Merci. Monsieur Bob, dites-nous, chacun des deux, hein, quand on parle de rétablir la vérité, le gouvernement l'a dit en avril, c'est ce qu'a également indiqué le M2D hier. Finalement, c'est quoi la vérité dans cette affaire, selon vous?
Pour moi, la vérité, ce sera la justice. Pour moi, la vérité, ce sera aussi donc la vérité qui sortira. On peut donc des voix officielles de ce que dira quand même donc la justice, mais au-delà de ça, en réalité, je pense que on a eu deux mémorandums. Je pense que le premier mémorandum, celui de l'État quand même, je pense qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances, parce que l'État du Sénégal n'est pas allé jusqu'au bout quand même donc de sa logique, parce qu'il fallait désigner quelqu'un, désigner un coupable,
en l'occurrence le député Ousmane Sonko, alors que quand même les manquements au niveau de l'État étaient visibles à l'œil nu par rapport à sa convocation jusqu'aux attroupements qu'il y a eu, son arrestation et sa détention, et même illégale au regard de l'article 106 du Code pénal.
Donc vous le dites que vous êtes d'accord avec le M2D qui estime que le seul responsable de cette violence meurtrière, c'est le président Macky Sall. C'est ce qu'il dit dans son rapport, dans son mémorandum.
Non, je n'ai pas à être d'accord avec qui que ce soit. Je fais une analyse objective et directe de la chose. Je l'analyse froidement. Vous savez très bien qu'en réalité, il y a eu quand même des faits qui sont là et qui sont têtus. Nous avons vu des milices à côté des forces de l'ordre, parce que parmi les instruments que doivent avoir les forces de l'ordre sénégalais, il n'existe pas de gourdin. On a vu des gens qui étaient habillés en civil, qui étaient aux côtés des forces de l'ordre et donc qui étaient en train de bastonner et d'arrêter des gens. Et ça, c'est dans le mémorandum du M2D. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est en soi bon pour la démocratie que les gens écrivent pour la postérité, mais aussi c'est en soi bon pour mettre en réalité les choses à nu pour que la justice soit saisie des deux camps. Et à ce niveau, j'ai dit que la vérité qui sortira, ce sera la vérité judiciaire. Il faudrait aller à ce niveau maintenant beaucoup plus loin. Parce qu'il ne suffit pas de produire un mémorandum, il suffit aussi de donner des preuves de la part des deux camps pour savoir en réalité ce qui s'est passé réellement. Et je dis tout simplement que le premier mémorandum était un mémorandum qui tentait d'absoudre un camp et tout simplement de désigner un coupable. Le second mémorandum, il est détaillé, certes, mais jusqu'à présent, aussi le M2D, dans ses propositions, devrait aller beaucoup plus loin en saisissant les juridictions et en mettant en réalité des comités de réflexion, ou bien même en saisissant la justice avec les preuves à l'appui pour dire clairement voilà ce que nous reprochons à l'État du Sénégal et au gouvernement sénégalais qui sont là. Mais jusqu'à présent, ces deux, n'est-ce pas, mémorandums qui se mettent dos à dos. Moi, en tant que scientifique, en tant que chercheur, ce que je dis, c'est que l'État du Sénégal a manqué quand même de courage pour détailler, n'est-ce pas, tous les aspects et tout ce qui s'est passé, et même désigner du doigt, en fait, les manquements de l'administration.
Merci.
Par exemple, quand le sous-préfet se déplace pour donc requalifier des faits, en parlant de troubles à l'ordre public, alors qu'il n'y avait que de simples attroupements, ou bien lorsque l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté.
Je suis désolé de vous interrompre, M. Bouop. On se retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle suite a donné aux deux mémorandums, l'un du gouvernement et l'autre de la coalition de l'opposition et de la société civile M2D, sur les dernières violences qui ont secoué le Sénégal? Nous en parlons ce soir avec Amadou Ba, juriste, membre du mouvement des cadres de PASTEF, parti d'opposition, Kafor Kandi, membre de la coordination du mouvement Il y en a marre, et Mohamedou Gouda Bouop, enseignant-chercheur. Alors, Monsieur Bouop, je vous donne la parole pour conclure vos propos sur ce qui, selon vous, apparaissait comme quelques incohérences dans le rapport du gouvernement.
Oui, tout à fait, parce que ces incohérences sont relatives quand même à la forme et même au fond, parce que quand même le mémorandum gouvernemental n'a pas suivi en réalité la démarche gouvernementale. Parce que n'oublions pas qu'en réalité, il y a des chefs d'accusation d'ailleurs, qui pèse jusqu'à présent sur le député Ousmane Sonko. D'ailleurs même, il y a une nouvelle demande de levée d'immunité parlementaire par rapport à Ousmane Sonko, par rapport, n'est-ce pas, à certaines poursuites initiées pour ce que disait tout à l'heure M. Ba. Par exemple, le délit d'appel à l'insurrection. Et pourtant, tout le monde sait que Ousmane Sonko était un député. Donc, au moment où Ousmane Sonko a été convoqué, la gendarmerie n'en avait pas le droit parce que l'immunité est d'ordre public.
Vous voulez dire que le gouvernement tente de revenir à la charge parce que cette demande avait été formulée avant les manifestations et finalement suspendue à la faveur d'une médiation du Khalif général des Mourides.
Et tout à fait, parce que lorsque le gouvernement produit un mémorandum à charge contre une seule personne, en l'occurrence Ousmane Sonko, il se trouve que le gouvernement est en train quand même donc de chercher encore donc à revenir à la charge pour pouvoir tout simplement l'arrêter. Merci. Je ne sais pas ce qui se fera. Mais en tout cas, beaucoup. Au niveau de la méthode, par exemple, si le M2D a voulu faire, par exemple, ce mémorandum, Et si le M2D a attendu aussi longtemps pour répondre, c'est parce que tout simplement le M2D sait que l'État du Sénégal l'appel est un terrain très sérieux et il fallait répondre aussi à ce niveau.
Merci beaucoup, M. Bo, pour votre analyse. Je vais redonner la parole à M. Kandi qui n'a pas eu un temps de parole assez suffisant. On va parler tout à l'heure des suites à donner à ces deux rapports. M. Bo évoquait déjà des suites judiciaires. Mais avant cela, je voudrais qu'on dise encore un mot avec vous, M. Kandi, sur ce mémorandum. Qui affirme que Macky Sall n'a pas tenu ses promesses et évoque notamment les cas des jeunes arrêtés dans le cadre des dernières manifestations qui sont encore détenus. Qu'est-ce qui explique leur maintien en détention et qu'avez-vous fait au niveau du MD2 pour obtenir leur libération?
Oui, je le confirme. Jusqu'à présent, il y a des jeunes qui couvent en prison. Et comme vous le savez, la libération de tous ces manifestants faisait partie des dix recommandations ou revendications qu'on avait, que MD2 avait donné au calife général des Mourides, aux représentants du moins du calife général des Mourides. Et de ce souci, il l'a transmis au président de la République. Maintenant, la balle est dans son camp. C'est lui qui essaie de faire, je ne sais pas, il essaie de jouer à un.
Mais quelles sont les raisons qu'on avance et qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir leur libération? On parle d'une trentaine de jeunes qui sont encore détenus un peu partout dans le pays.
Oui, en fait, c'est que nous, on a commis des avocats. Il y a des commissions qui existent, qui ont fait le recensement. Maintenant, oui, poser des actes, on a commis des avocats et tout qui sont en train de suivre les instructions de ces dossiers. Maintenant, la responsabilité quand même incombe aux autorités judiciaires. C'est eux qui détiennent ces jeunes-là. Ils peuvent les libérer aujourd'hui, même s'ils veulent. Elles peuvent les libérer dimanche. Donc, c'est à eux de respecter quand même ce qui a
été convenu. Mais qu'est-ce que ces autorités disent à vos avocats qui ont été mandatés pour faire libérer ces jeunes-là?
Mais rien du tout. On ne sait même pas. C'est quand même. On ne sait même pas ce qui se passe au niveau de ce. Au fond, il y a rien. C'est quand même. Il y a rien de clair qui a été dit. Il n'y a pas de procès. Il y a rien. Ces jeunes sont incarcérés. Il n'y a pas de procès. Il y a même pas encore d'instruction. Rien encore n'a été fait. Et jusqu'à présent, ces jeunes sont dans ces prisons-là pour rien du tout.
Merci.
Rien du tout, en fait.
Merci, M. Kandi. M. Ba, également dans votre mémorandum, vous demandez un procès rapide. C'est une citation, diligent, impartial et honnête dans l'affaire Sonko.
Oui, bien sûr. Encore, pour que le procès existe, il faut que le gouvernement en fasse les diligences. Vous savez, le juge qui était chargé de l'enquête est malheureusement décédé. Donc, on attend encore la nomination d'un nouveau doyen des juges. Le gouvernement fait du dilatoire, il est évident, parce que quand même, au-delà de tout doute raisonnable, on voit bien que l'affaire du viol s'est transformée en une affaire politique qui dépasse désormais le cadre du viol. Que même, on ne sait même pas de quoi désormais M. Ousmane Sonko est poursuivi. On nous dit qu'il y a le viol, il y a le délit de trouble à l'ordre public quand il se rendait au tribunal, il y a le délit d'appel à l'insurrection, et toutes ces procédures ne sont pas encore jointes. Donc on ne sait même pas de quoi ça retourne.
Mais pourquoi le gouvernement ferait du dilatoire, selon vous?
Mais pour répondre à la question, c'est pourquoi dès les premiers morts, comme dans tout pays normalement constitué, le président de la République n'a pas jugé, à travers son ministère de la Justice, de saisir un juge et d'ouvrir une instruction judiciaire parce qu'il y a eu des blessés et des morts. À ce jour, quand même, c'est plusieurs mois après ces événements, le gouvernement n'a toujours pas saisi la justice et annonce une commission d'enquête.
Excusez-moi, Monsieur Bala, vous parlez d'autre chose. J'étais encore sur le cas Sonko. C'est vous qui avez affirmé que, puisque dans votre mémorandum, vous avez réclamé un procès rapide en indiquant d'ailleurs que c'est un tissu de mensonges et que l'opposant avait son agenda politique. Alors, je vous demande, dans quel intérêt le gouvernement ferait-il traîner la procédure, comme vous le dites?
Le point de départ de tout cela, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ça, c'était le même écoutour, la levée de fonds, de passifs, pour financer ses activités politiques et éventuellement la campagne électorale à venir. À 2h du matin, alors que la levée de fonds était publique, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué pour dire qu'il va dissoudre le parti, qu'il menace de dissoudre le parti. Et cette histoire est aux oubliettes aujourd'hui. Et c'est la suite de ça qu'il y a eu l'affaire du viol. Maintenant, lorsque le gouvernement récemment, M. Ousmane Sonko a été invité hier à se rendre à Lomé sur la pour une conférence sur le franc CFA, un forum sur le franc CFA.
Mais le gouvernement forum de l'écho.
A interdit de sortir. Forum de l'écho, avec des arguments, mais on ne peut plus.
Monsieur Ba, vous parlez, mais vous ne répondez pas à la question, mais soit.
Je vous réponds, le gouvernement fait du dilatoire. Pourquoi ? Parce qu'il veut empêcher la liberté de mouvement et d'action du candidat Ousmane Sonko, alors qu'il y a des échéances électorales à venir au mois de janvier. Et la preuve de cette affirmation, c'est qu'hier, ils l'ont empêché.
Donc c'est une épée de Damoclès que le gouvernement fait peser exprès, selon vous, sur la tête de Ousmane Sonko pour limiter ses mouvements.
Jusqu'en 2024, il me semble que pour une affaire qui paraissait simple, d'après même leur mémorandum, qu'ils ont des preuves, etc., etc., normalement, un juge saisi devrait, depuis le décès du juge, on ne va pas attendre 6 mois pour nommer quand même un nouveau doyen des juges.
Merci.
Donc pourquoi tout ce dilatoire, pourquoi tout ce temps, on sent qu'il y a une volonté de museler judiciairement Ousmane Sonko pour l'empêcher de mener ses activités politiques.
Merci. C'est également votre impression, M. Bouop. Certains estiment aussi que la justice a son propre agenda, que personne ne saurait la bousculer.
Tout à fait. Et je suis totalement d'accord avec vous parce que le temps de la justice n'est pas le temps commun. Enfin, c'est pas
ou le temps
juge,
politique,
hein, en réalité.
Où la justice effectivement, la doit justice, se mettre au rythme de la volonté des politiciens.
Ouais, je suis totalement d'accord que la justice doit avoir de la sérénité et puis c'est pas la politique qui dicte le rythme à la justice. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en réalité, depuis le décès du doyen des juges, quand même, donc, il y a de l'immobilisme total et il revient au garde des Sceaux de nommer les juges d'instruction. Au Sénégal, les juges d'instruction sont nommés par le garde des Sceaux et jusqu'à présent, le garde des Sceaux n'a pas pris un acte pour pouvoir nommer donc le doyen des juges, donc il devait remplacer. D'ailleurs, même dans le droit sénégalais, il se trouve tout simplement, en réalité, l'intérim est prévu et ça se pratique quotidiennement. Parce que tout simplement, la loi dit clairement qu'en cas de nécessité de service, même un juge inamovible peut bel et bien être affecté. Donc, je pense que pour rien que pour les dossiers qui étaient sur la table du doyen des juges, avec d'autres, n'est-ce pas, donc personnes qui attendent, il faudrait nommer cette personne-là. D'autant plus que récemment, Ousmane Sonko a introduit une demande et n'avait été traitée rapidement. Mais aussi, je dis qu'à ce niveau aussi, les avocats d'Ousmane Sonko aussi ont leur responsabilité. Parce que quand on a un dossier comme ça, on se doit de saisir la justice via ses conseils pour demander à chaque fois, soit chaque mois, où en est l'état de la procédure.
Merci. Alors, Monsieur Kandi, on va parler à présent de les suites à donner à ces deux mémorandums au contenu divergent, on l'a dit. Monsieur Bouop parlait des suites judiciaires. Est-ce que c'est également l'option qui vous paraît la plus indiquée?
Oui. Depuis le début, M2 considère qu'il doit y avoir justice. On ne peut pas compter 13 morts et qu'il n'y ait pas de justice. C'est inacceptable. Les régimes qui se sont succédés ont commis des assassinats sur des Sénégalais. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est arrivé un moment où ces personnes-là qui ont été tuées froidement, qu'il y ait justice. Oui, M. Mboub a parlé justement de quelle suite a donné. Depuis le début, nous, on a posé ces actes-là vers la justice, c'est-à-dire qu'il y ait justice pour ces jeunes-là.
Mais quelle justice? La justice nationale ou la CPI?
Justice nationale. Je vais en revenir. Justice nationale, parce que nous avons demandé qu'une commission soit mise en place et que ça soit ouverte à l'ensemble des acteurs de la vie politique, de la société civile et autres personnalités du pays. Jusque-là, il n'y a rien n'a encore été fait. Quand le gouvernement a présenté son mémorandum, il avait annoncé la construction l'ouverture d'une enquête ou bien je ne sais plus, la construction d'une commission. Jusque-là, il n'y a rien encore qui a été fait. Maintenant, des Sénégalais qui ont assisté à ces assassinats, qui ont assisté à ces atrocités, ont récolté des preuves. et aller porter plainte au niveau de ce pays. Maintenant, la plainte a été reçue. Nous espérons qu'une enquête va être ouverte. Mais au niveau national, nous continuons d'exiger la justice. Mais maintenant, le mémorandum n'a pas quand même une teneur ou bien n'a pas quand même une vocation ce n'est pas un document qu'on va aller déposer au niveau de la justice. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vulgariser davantage. Nous, c'est un narratif qu'on a produit. Ce qui s'est passé, en tant qu'acteur, nous, on était là. On a donné notre point de vue. Maintenant, il s'agit de vulgariser ce document-là. On va le donner à l'ensemble des représentations diplomatiques qui sont ici au Sénégal et aux autres organisations diplomatiques, mais non gouvernementales qui sont au niveau de l'étranger pour que ce mémorandum soit davantage vulgarisé.
Merci beaucoup. Je propose, messieurs, qu'on marque une courte pause. On se retrouve pour parler de la suite à donner à ces deux mémorandums pour ne pas avoir à vous interrompre, monsieur Ba, et vous prendrez la parole juste après. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Au Sénégal, deux mémorandums sur les tensions qui ont concerné le pays les mois derniers. Que faut-il en faire? L'un est du gouvernement et l'autre de CD2, une coalition de l'opposition et de la société civile. Nous en parlons ce soir avec Kafor Kandi, qui est membre de la coordination du mouvement Il y en a marre, Mouhamadou Goudabouop, enseignant-chercheur, et Amadou Ba, juriste, membre du mouvement des cadres de PASTEF, parti d'opposition de Ousmane Sonko. Alors, monsieur Ba, est-ce que vous partagez la proposition faite par M. Kandi sur ce qu'il faut saisir la justice internationale, mais aussi celle nationale? Je pose la question parce qu'il me semble qu'au niveau du PASTEF, vous êtes davantage favorable à la CPI, c'est-à-dire à une justice internationale.
Non, PASTEF n'a pas de préférence particulière. Il faut rappeler d'abord que la justice internationale est une justice subsidiaire. C'est une justice subsidiaire. Elle ne peut intervenir que lorsque les juridictions nationales sont défaillantes. En l'occurrence, ici, il ne s'agit pas d'une défaillance de la justice sénégalaise, mais d'une non-saisine de la justice sénégalaise pour ouvrir des instructions. C'est ça le problème. Ce qu'il y a à faire, c'est qu'il ne faut pas mettre sur pied cette commission qui ne veut rien dire du moment où les institutions judiciaires fonctionnent. Il faut juste saisir un juge d'instruction, ouvrir des enquêtes, parce qu'il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés qui attendent. Normalement, ce n'était pas à eux de saisir ce qui est en train d'être fait individuellement, parfois.
Mais le M2D a dit qu'il soutiendra cette procédure intentée par...
Le M2D a donné trois solutions. Elle va aussi bien soutenir la saisine des juridictions nationales, des juridictions régionales et des juridictions internationales. Pourquoi? Parce que de toute façon, le gouvernement n'a pas l'intention de saisir la justice. Une commission ne peut pas violer la Constitution parce qu'il faut que ce soit créé par la loi, il faut que les gens soient assermentés. Une personne nommée par décret au sein de cette commission ne peut pas entendre des victimes, ne peut pas exhumer un corps, ne peut pas ordonner des expertises balistiques, etc. Donc il faut que le président de la République soit sérieux. S'il n'a rien à se reprocher, qu'il saisisse un juge.
Merci.
Et le juge peut aller déjà très vite. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le président de la République doit arrêter et définitivement cette idée de commission politique qui a déjà désigné son coupable, en l'occurrence Ousmane Sonko, saisir les juges. Maintenant, s'il y a des défaillances réelles et objectives, les gens vont saisir les juridictions régionales et la CPI qui est saisie attendra de voir les résultats. Si le gouvernement...
Parce que vous êtes convaincu que cela aboutira, la procédure aboutira au niveau de la CPI?
En tout cas, il y a eu un dossier sérieux, il y a eu des vidéos de l'utilisation des nervis, c'est-à-dire par le gouvernement, ça a été documenté, qu'il y a des vidéos montrant quand même des exécutions sommaires de la part des forces de l'ordre, ça c'est des vidéos qui sont réelles. Maintenant, où se situent les responsabilités? Je pense que si le président continue son dilatoire, la Cour pénale internationale sera obligée d'ouvrir une instruction.
D'accord. Et on va voir ce qu'il en sera. Monsieur Bouop, est-ce qu'il n'était pas aussi possible d'envisager une solution négociée comme celle qui a permis de suspendre la manifestation, c'est-à-dire peut-être en remettant ces deux rapports au Khalife général des Mourides, médiateur consensuel dans cette tension qui oppose pouvoir et opposition ? Pour qu'il décide peut-être de la suite à donner. Monsieur Bouop, bon, je m'adresse donc. Monsieur Kandi, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît.
Mais moi, je pense que quand même, il ne faut pas confondre le rôle des guides religieux qui ont intervenu pour l'apaisement de la situation. C'est des régulateurs sociaux. Ils sont intervenus.
Mais c'est la classe politique qui l'a invité dans la crise.
Oui, c'est vrai.
Du moment où il ne s'entend plus sur le fait concernant cette crise, est-ce qu'il ne faudrait pas s'en remettre à eux?
Je pense, non, ils sont intervenus de leur propre gré. Je ne pense pas que les politiques ont la capacité ou bien la légitimité de mobiliser ces guides religieux-là. Je ne le pense pas. Je pense qu'ils se sont auto-saisis en tant que régulateurs sociaux, en tant que des personnes qui ont en charge et qui sont à la tête de communautés, de très fortes communautés, qui sont sous les responsabilités. Ils se sont intervenus sous cette casquette-là. Donc, je ne pense pas que les politiques les ont mobilisés. L'autre chose, c'est que leur rôle, pour moi, ils l'ont fait. C'est des régulateurs sociaux. Maintenant, il ne faut pas leur donner d'autres rôles qu'ils ne puissent pas jouer, c'est-à-dire le rôle de justice. Ce mémorandum-là, oui, on va les traduire en arabe pour le donner à ces guides religieux-là. Mais je ne pense pas que c'est à eux d'apporter...
De donner suite à ces deux mémorandums qui s'opposent.
Ce n'est pas de faire ce travail-là, je pense. C'est quand même à notre juridiction nationale de s'auto-saisir de cette question-là. Elles n'ont même pas entré en tant que MDD saisisse de porte-plainte ou quoi que ce soit. Non, s'il y avait une justice pour moi qui était là, qui était indépendante, elle aurait saisi pour mener une enquête. Et s'il y a lieu d'aller en procès, oui, aller en procès.
On le fera. Merci, M. Kandi. M. Bob, vous m'entendez?
Oui.
Allô, M. Bob?
Oui.
Oui, alors, on a parlé tout à l'heure de l'après-mémorandum, mais je voudrais vous demander, compte tenu de l'incompréhension et de l'opposition qu'il y a au niveau de l'interprétation de ce rapport, est-ce qu'on ne peut pas craindre de nouvelles manifestations, puisqu'on a entendu au niveau du MD2, le porte-parole dit « nous manifesterons quand il le faudra ».
En tout cas, je sais que nous sommes dans une période de détente. Et cette période de détente, maintenant, ne voudrait pas dire que voilà qu'il risque pas d'y avoir de deuxième vague, parce qu'en l'occurrence, le gouvernement n'a pas encore enterré le dossier. Et il se trouve que quand même, donc, jusqu'à présent, il y a des plaintes de la part de l'État contre donc Ousmane Sonko et certains membres, certains manifestants. Il y a aussi des manifestants qui sont toujours en prison et qui n'ont pas été libérés conformément à la volonté, n'est-ce pas, des médiateurs. Et donc, ce qui veut dire tout simplement, en réalité, si nous n'essayons pas de dégeler cette situation-là, de pouvoir trouver un consensus, tel que je le dis, ce qui est à la base de l'identité constitutionnelle sénégalaise, qui repose sur une démocratie de consensus, on risque quand même d'avoir une nouvelle escalade.
Mais est-ce que vous pensez que le pouvoir en a la volonté? Puisque M. Ba parlait tout à l'heure de cette stratégie d'après le PASTEF du gouvernement qui consiste coûte que coûte à écarter Ousmane Sonko de la présidentielle 2024, d'où ce dilatoire, dit-il, au niveau judiciaire.
Écoutez, je pense que la bonne foi du gouvernement se présume. Maintenant, cette présomption, elle est réfragable. Pourquoi elle est réfragable? Parce qu'au regard de certains actes, on peut dire qu'en réalité, le gouvernement souffre le saut et le froid. Et là, ça pose problème, à mon avis. D'autant plus qu'en réalité, Ousmane Sonko a au moins donc essayé d'appeler quand même les gens à la retenue et de demander à ce que donc que tout le monde donc cesse les manifestations pour aller faire des recueillements et des cérémonies même, donc voilà, dommages, etc.
Donc vous pensez que le gouvernement ne met pas assez à profit ce temps de détente pour contourner la page éventuellement des tensions qui sont redoutés?
Bon, je ne le pense pas parce que récemment, le président de la République a menacé même donc les gens lors donc du conseil présidentiel sur l'emploi. Et donc, en proférant ces menaces-là, on sent nettement que donc, jusqu'à présent, donc, ils n'ont pas digéré ce qui s'est passé. Et je pense qu'il leur revient en tant que donc, gouvernant et surtout le président de la République qui doit essayer d'être un juge au-dessus des partis pour régler cette situation-là. Aussi que le dossier soit vidé, la justice quand même, le temps de la justice, comme je l'ai dit, n'est pas le temps commun, n'est pas le temps de la politique, certes. Mais une affaire comme ça, on doit essayer de faire en sorte que les procédures puissent être respectées et que donc s'il doit y avoir un procès, que le procès donc se tienne. S'il y a aussi à classer le dossier, il revient au juge de le faire, qu'on le fasse dans la vérité et dans la justice, parce que nous voulons la justice dans ce pays, mais nous le voulons dans la vérité.
Merci. Il faut donc accélérer le dossier Ousmane Sonko, dites-vous. Merci beaucoup, Mouamadou Gouda Bob, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à Kafor Kandi, membre de la coordination du mouvement Yann Amar, et à Amadou Ba, juriste et membre du parti d'opposition PASTEF de Ousmane Sonko. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat qui parlait donc des suites à donner aux deux mémorandums proposés sur les dernières violences sociopolitiques au Sénégal. Bonsoir.